Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil, très belle journée à tous. Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous serons dans ce journal en forêt de Fontainebleau où des pompiers de toute la France sont envoyés en renfort ce matin pour lutter contre le très gros incendie qui fait rage depuis hier. 800 hectares ont déjà brûlé, 1000 habitants évacués et pour la première fois des canadairs sont déployés en région parisienne. Nous serons à Paris aussi dans ce journal avant le discours aux armées d'Emmanuel Macron, c'est le 14 juillet, vous verrez qui commence en fin de matinée. Et nous serons aussi à Dallas, aux États-Unis où les Bleus sont arrivés dans la nuit à la veille de leur demi-finale du mondial contre l'Espagne.
L'image est saisissante ce matin. Un épais nuage de fumée recouvre la forêt de Fontainebleau.
On n'aurait jamais pensé avoir le feu aussi près de Paris, c'est ce que disent les pompiers, puisque c'est à 60 km de la capitale que cet incendie a pris hier après-midi dans un champ, avant de se propager à la forêt et même de traverser l'autoroute A6 qui est toujours coupée dans le secteur, là au moment où on se parle. Je vous propose d'écouter tout d'abord Madeleine. Madeleine, c'est une des 1000 habitantes qui a dû être évacuée dans la soirée de son village du Vaudoué.
On a senti l'odeur, on a entendu les pompiers, on a entendu les hélicoptères bombardiers d'eau qui faisaient une noria autour du secteur. C'est un petit peu stressant, surtout quand on n'a plus tout à fait 20 ans. On a oublié beaucoup de choses à la maison. C'est pour ça que les secouristes sont partis chercher en particulier les médicaments dont mon mari a besoin. Nous avons un jardin boisé d'ailleurs, donc avec beaucoup de pins. Donc c'est quand même un peu inquiétant tout ça. Finalement, l'évacuation, on s'imagine que c'est seulement dans les Pyrénées orientales et en Provence. Et non, c'est pas vrai.
Et non, c'est à 60 km de Paris et dans le secteur, dans un autre village concerné, Noisy-sur-École, au QG des pompiers. On vous retrouve Romain Houg en direct ce matin pour RMC. L'info, c'est que pour la première fois, donc, des canadairs sont déployés. On est à 60 km de Paris et des canadairs sont envoyés pour éteindre le feu.
Oui, elle vient d'ailleurs voir passer un juste au-dessus de nos têtes. C'est, vous l'avez dit, une première pour l'Île-de-France. Deux canadairs qui vont aller directement écoper dans la Seine avant de larguer leur cargo sur les flammes de cette vie extrêmement virulent. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. Les habitants du secteur sont prévenus par un message d'alerte quelques instants avant l'arrivée de moyens aériens historiques.
Romain, je vous coupe. Petit souci avec vous. On comprend bien. Avec ce feu, donc en forêt de Fontainebleau, de 3 secondes, on va relancer la liaison en votre compagnie depuis donc le QG des pompiers qui se situe à Noisy-sur-École. Donc c'est à l'ouest de cette forêt de Fontainebleau qui brûle toujours ce matin. 800 hectares déjà ravagés par le feu. Romain Houg, des canadairs, donc, c'est ça, déployés au-dessus de cette forêt de Fontainebleau.
Oui, je viens justement d'en voir passer un juste au-dessus de nous et c'est une première pour l'Île-de-France. Deux canadairs qui vont aller directement écoper dans la Seine avant de larguer leur cargaison d'eau sur les flammes de cet incendie extrêmement virulent. C'est vraiment quelque chose que l'on n'a jamais vu ici. Les habitants du secteur seront d'ailleurs prévenus par un message d'alerte quelques instants avant l'arrivée de ces moyens aériens. Seine donc tout à fait historique et puis c'est une première qui en succède à une autre puisqu'il hier, déjà, pour la première fois, ce sont deux DASH qui ont également été mobilisés en Île-de-France. Voilà, qui témoignent de l'importance de cet incendie, d'une ampleur exceptionnelle, nous disent les pompiers depuis hier soir. Déjà, plus de 800 hectares partis en fumée. Les pompiers redoutent que la barre fatidique des 1000 hectares ne soit dépassée ce matin. Et plus de 400 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ici, au poste de commandement où les va-et-vient des véhicules de secours incendie ne cessent jamais, eh bien, le nombre de véhicules de pompiers, de camion est juste impressionnant. Ils se tiennent prêts à partir à tout moment, partir relayer leurs collègues qui sont en ce moment en train de lutter au plus près des flammes, à peine quelques kilomètres d'ici. C'est d'ailleurs ici, au poste de commandement des pompiers, qui est attendu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce matin. Et puis, c'est une très longue journée qui attend les soldats du feu, voire même plusieurs très longues journées, puisque la puissance de cet incendie est telle qu'il faudra sans doute plusieurs jours avant de parvenir à l'éteindre.
Avec les canadairs qu'on entend donc derrière vous, Romain, ou depuis la forêt de Fontainebleau, il y a une conséquence de ce feu et puis d'un autre aussi qui a pris hier dans la même région, près de Melun, c'est que le trafic des trains est perturbé toujours sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le Sud-Est. Ça tombe mal évidemment en plein été, en pleine vacances scolaires. Il y a eu jusqu'à 9 heures de retard cette nuit pour un TGV en provenance de Lyon. Et Pierre Bazin, vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris ce matin pour RMC, vous nous dites que les retards continuent.
Oui, ici c'est la grande pagaille. Même si le trafic peut reprendre normalement selon la SNCF, il faudra du temps et des solutions pour évacuer ces voyageurs comme Sofiane. Le jeune homme devait descendre dans le sud.
Le programme, c'est tout simplement de repartir à Marseille-Saint-Charles au train de 6h03. Il a été supprimé à cause des incendies, donc j'ai dû en reprendre un autre. Et ben, lui aussi n'est pas possible. Tout est complet. Tous les trajets menant à Marseille-Saint-Charles, en tout cas pour toute la journée, ils sont complets. On est comme des tortues sur le dos, on va dire. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment s'en sortir. Ça agace un peu, mine de rien.
Tout autour de nous, il y a des centaines de voyageurs qui attendent, allongés au sol, les yeux rivés sur des tableaux d'affichage. C'est le cas d'Ivana et de ses amis. Ces trois touristes devaient déjà partir hier soir pour les vacances. Elles ont dormi ici, à même le sol.
Toute la nuit, on a dû dormir ici. On a essayé de demander quelques aides, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Voilà. Donc on espère de partir.
Vous vous sentez comment ?
Fatiguée. Fatigué, vraiment. C'était difficile.
La SNCF indique donc que la circulation ferroviaire a repris à une vitesse normale sur la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Lyon. Malgré cela, il faudra plusieurs heures et des trains supplémentaires pour emmener tous ces voyageurs naufragés.
Pierre Bazin, direct de la gare de Lyon ce matin pour RMC. On parle beaucoup des incendies, mais il y en a beaucoup, hein, des incendies. Les pompiers sont déployés sur d'autres feux. Un dans le Maine-et-Loire, au nord d'Angers, toujours en cours. Écrit ce matin le journal Ouest France, près de 300 hectares qui ont brûlé dans une zone boisée. Et un autre dans le Finistère, il a pris dans la soirée au bord de l'eau, au Cap Fréhel. Un camping a été évacué. D'importants moyens sont déployés ce matin, écrit le journal Le Télégramme. Alors dans ce contexte, vous savez qu'énormément de feux d'artifice du 14 juillet sont annulés. Celui de Paris aura bien lieu ce soir. Il a été avancé d'une journée pour respecter les commémorations des 10 ans de l'attentat de Nice qui auront lieu demain soir sur la promenade des Anglais en présence d'Emmanuel Macron qui, avant ça, va lancer en quelque sorte les festivités du 14 juillet. Thomas Becker pour RMC en fin de matinée avec un discours aux armées.
Oui, Emmanuel Macron devant les troupes à l'hôtel de Brienne ne se privera pas de rappeler sa promesse tenue. La hausse du budget des armées, 64 milliards d'euros cette année, c'est le double par rapport à 2017. Autre illustration, le réveil stratégique de l'Europe, cher au président de la République. Il en sera question aux Invalides cet après-midi avec la réunion de la coalition des volontaires, alliance née à Paris l'année dernière. Une trentaine de pays, principalement européens, pour soutenir l'Ukraine. Ils seront mis à l'honneur demain du dernier défilé du 14 juillet pour le chef de l'État, l'Élysée qui tente déjà d'écrire une partie de l'héritage de la présidence Macron en promettant un défilé massif et inédit avec notamment 500 militaires étrangers membres de la coalition qui ouvriront la marche.
À 8h07 sur RMC, je vous signale que c'est la première journée de repos sur le Tour de France dans le Cantal, d'où ça repartira demain pour une étape de montagne, celle du 14 juillet dans le Massif Central au lendemain de la victoire du Néerlandais à Ussel, Mathieu Van Der Poel. C'est...
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus qui sont arrivés à Dallas dans la nuit, c'est là qu'ils joueront demain leur demi-finale du Mondial contre l'Espagne. Première fois qu'ils font autant de chemin pour un match. Jusque-là, tout se passait, vous le savez, sur la côte est des États-Unis. Nicolas Pelletier, vous avez assisté à leur arrivée dans la nuit. Tout s'est fait dans le calme et sans euphorie.
Oui, les Bleus ont pris leur quartier en plein cœur de Dallas dans le très chic Hôtel Adolphus qui se trouve donc dans ce centre de Dallas. Ils sont arrivés devant une toute petite foule de supporters principalement acquises à la cause de Kylian Mbappé, des joueurs dans leur bulle sans même un petit geste pour les fans présents entraînant des déceptions dans les rues. Nous sommes très loin d'une ambiance de demi-finale de Coupe du Monde où les 37 degrés du thermomètre ne facilitent pas la tâche pour les supporters français qui seront 3000 demain soir à Dallas. Mais ce sont surtout des maillots espagnols et argentins qui sont visibles dans cette zone où la communauté hispanique est très implantée. Ce soir, les hommes de Didier Deschamps s'entraîneront sur un petit stade de la ville texane et non pas dans l'enceinte ultra moderne située en périphérie. Ils découvriront ce stade fermé et entièrement climatisé seulement demain lors de la demi-finale de Coupe du Monde. Un match où Didier Deschamps doit aligner le même 11 que face au Maroc. Seule nouveauté, Aurélien Tchouaméni, remis de sa blessure, devrait remplacer Manu Koné au coup d'envoi face à l'Espagne.
Demain donc à 21h sur RMC et vous en avez l'habitude, vous ne raterez rien de l'avant ni de l'après-match à l'écoute d'RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet et puis Quentin en parlait évidemment à l'instant, ce feu, la forêt de Fontainebleau aux portes de Paris où l'on retrouve tout de suite en direct Sylvain Vaudic, bonjour. Vous êtes le porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne, merci d'être en direct avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, monsieur, si le feu progresse toujours?
Oui, bonjour Apolline. Alors écoutez, la situation ce matin, c'est que le feu progresse toujours. À ce stade, 800 hectares ont brûlé depuis le départ du feu hier après-midi. L'enjeu ce matin, ça va être de pouvoir organiser les opérations à venir et notamment l'accueil de tous les renforts extra-départementaux qui vont nous rejoindre dans le courant de la journée.
Il y a toujours deux Canadair qui sont mobilisés.
Alors effectivement, information du coup inédite, hein, puisque depuis ce matin, deux Canadair effectuent des largages. Ce sont les premiers largages opérationnels, c'est-à-dire hors formation, qui ont lieu sur la forêt de Fontainebleau. On n'avait jamais vu ça. Donc aujourd'hui, les sapeurs-pompiers en Seine-et-Marne sont confrontés à des feux tels qu'on peut en voir dans le sud de la France.
Quand vous dites on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire que vous qui êtes porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne, en Seine-et-Marne, vous n'aviez jamais eu un feu d'une telle ampleur?
Non, tout à fait. C'est un feu qui est inédit et qui surprend par l'ampleur. On savait que le niveau de risque augmentait d'année en année sur la forêt. On s'y préparait. On a eu des exercices même tout récemment sur le secteur dans lequel on se trouve. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité et à ce feu très important.
Vous avez combien d'hommes qui sont mobilisés?
Alors actuellement, le dispositif s'élève à 300 pompiers hein, qui ont lutté toute la nuit. Et qui vont être relevés dans le courant de la journée grâce à la solidarité nationale.
Solidarité nationale, internationale s'il le faudra. On sait qu'il y a vraiment une forme de solidarité européenne. Je poserai d'ailleurs la question tout à l'heure au ministre des Affaires étrangères. Sylvain, vous dites que vous êtes inquiet pour la journée qui commence?
Alors ce matin, nous sommes plutôt rassurés dans la mesure où nous avons réussi à bien sectoriser notre intervention. Nous avons une vision plus claire de la situation et le travail de jour est toujours plus facile que celui de nuit, notamment pour la sécurité de nos personnels.
Est-ce qu'il y a aussi, on parlait de l'assise qui était coupée, est-ce que c'est toujours le cas au moment où on se parle?
Alors je sais qu'il y a un point qui va être fait dans quelques temps. Pour le moment, je n'ai pas d'informations sur le sujet.
Ça veut dire qu'au moment où on se parle, en tout cas, effectivement, la situation est à peu près la même. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Courage à vous, Sylvain Vaudic, vous êtes porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne et vous nous le dites, c'est du jamais vu, effectivement, dans votre secteur. Bon courage, effectivement, pour la journée qui s'ouvre et on espère un moment plus clément. Il est 8h12 sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chip, la canicule est en train de bouleverser notre rapport au logement.
Oui, la chaleur n'a jamais autant éprouvé les Français au quotidien, et particulièrement chez eux. 19 millions d'entre eux ont déjà dû quitter temporairement leur logement à cause des températures élevées, nous dit l'Observatoire Leroy Merlin. Et 51% des Français estiment désormais que la chaleur est le risque principal auquel son logement est exposé. C'est le chiffre quasiment le plus élevé de toute l'Europe. Et c'est un inconfort qui frappe deux fois plus les locataires que les propriétaires.
La chaleur qui a un impact sur le marché immobilier, sur les recherches?
Absolument. Un ménage sur trois à l'échelle nationale envisagerait de quitter son logement en raison des canicules, nous dit Le Bon Coin. Mais c'est bien plus en Île-de-France, par exemple. Dans les agences immobilières, la première question qui revient aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a la climatisation dans le logement que je vais visiter, même si son usage intense peut faire grimper de 50% votre consommation d'électricité. C'est un chiffre élevé. Alors pour ceux qui le peuvent, qui ne sont pas retenus par leur travail, par leur famille, qui en ont les moyens, ça représente quand même 10 à 15% des Français. Il y a l'envie de déménager vers des régions moins chaudes ou d'acquérir une résidence secondaire. Les zones privilégiées, c'est évidemment les littoraux tempérés de l'Atlantique ou la moyenne montagne. Le problème, c'est qu'évidemment, ces zones connaissent un fort succès. Le prix moyen du mètre carré y atteint 4 600 € en moyenne contre 3 000 sur la France en général.
Emmanuel, comme chaque matin, mais j'allais dire encore plus particulièrement à nouveau, on s'intéresse aux chiffres à la pompe, aux chiffres de l'énergie. Et je le rappelle, cette nuit, c'est à nouveau des frappes qui ont eu lieu. Le détroit d'Ormuz qui, d'après l'Iran, est à nouveau fermé. On aura d'ailleurs les réponses du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est mon invité à 8h30. Mais quand on regarde les prix, on en est où, Emmanuel?
On peut parler de rebond, hein, véritablement, puisque sur le prix du gazole, on est remonté à 1,99€ le litre, c'est 9 centimes de plus en une semaine. Sur le sans-plomb 95, on est à 1,94€, c'est 4 centimes de plus en une semaine. Hein. Comme d'habitude, le gazole est toujours plus réactif que le sans-plomb. Et puis le pétrole, bah oui, 79$ le baril, c'est presque 10$ de plus qu'il y a une semaine. Et le gaz, lui, a augmenté de 20% au cours des 3 dernières semaines.
Donc tout remonte.
Tout remonte.
Tout remonte. Merci Emmanuel, il est 8h15 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. On retrouve notre moment humour avec le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, je vous le disais, mon invité dans le face-à-face, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Nouvelle frappe américaine cette nuit sur l'Iran. Et l'Iran qui a répliqué sur l'ensemble quasiment des pays du Golfe. Téhéran qui réplique, qui envoie des drones et qui menace également la France. Est-ce que le conflit au Moyen-Orient est en train de repartir? J'interroge donc le ministre des Affaires étrangères sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, ce sera le choix de la rédaction. 10 ans après les attentats de Nice, comment les victimes arrivent à se reconstruire? Nous avons pu les rencontrer, leurs témoignages, ils sont très forts et vous les entendrez à 8h50. Et puis toutes les infos Coupe du Monde avant la demi-finale France-Espagne de demain. Restez bien avec nous, 8h15 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud de Manche, même quand il n'est pas là, parce qu'on en a gardé le meilleur, Arnaud de Manche. Et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Hello you. Yeah. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la dernière semaine avant Noël, celle où on prépare les cadeaux. Les enfants attendent avec impatience le Père Noël, ce monsieur farceur, âgé et barbu qui rentre chez vous en pleine nuit parce qu'il aime vos enfants. Oh hein, il rentre dans la chambre des petits, il les regarde dormir, non, tellement attendri. Puis il dépose des jouets sous un conifère mort décoré par une mère de famille en burn-out. Voilà, c'est la tradition.
Rien,
mais non, mais je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Vous savez que les enfants peuvent même téléphoner au Père Noël. Moi, jamais mon gamin, il fait ça. Jamais il appelle un vieux au téléphone qui lui dit « T'as été mignon cette année ?» Tu sais, je te regarde souvent de là où je suis. En plus, ça coûte 3 euros la minute. Il a trouvé une bonne combine, Gabriel Matzneff.
Hein. Oh non.
Théotime, tu aimes les films avec des gladiateurs? On va raccrocher, monsieur.
Après les conditions de travail des employés chez Shein, plusieurs reportages ont dévoilé les conditions de travail dans des centres de cyber-arnaque. En Birmanie.
Oui, c'est affreux, hein. Donc les employés sont battus, sont enfermés 18 heures par jour là-dedans. Vous savez qu'en Égypte, on fouettait les esclaves pour construire des pyramides. Eh bien là, c'est pour créer des faux profils de Brad Pitt pour escroquer des Marie-Josiane à Clermont-Ferrand qui sont divorcées depuis 12 ans. Et alors, non seulement ils doivent se faire passer pour Brad Pitt, mais en plus, Brad Pitt a été anobli. Maintenant, c'est un prince du Nigeria.
Ah, oui.
Et comme il a la double nationalité et que les fonds de son héritage sont bloqués à la banque et qu'il a crevé sur le chemin, Marie-Josiane doit lui envoyer 100 000 euros via Western Union et une bombe anti-crevaison, etc. Et ta mère, elle gobe ça. Après, Macron nous a fait gober qu'il allait relancer notre économie et il nous a pris des sous aussi. Donc, on est tous victimes de ce genre de trucs. Ça se trouve, Macron est birman. Mais ceci dit, des escrocs qui arrivent à ramasser 800 000 euros tous les 15 jours, il faut les mettre au gouvernement. On devrait déguiser nos ministres en Brad Pitt et les faire correspondre avec des vieilles allemandes. Elles seraient là. Ah, Gunther, Brad Pitt vit à Paris et il a absolument besoin d'argent. Et schling, voilà, un petit remboursement de la dette. C'est comme ça qu'on avance.
Ah ouais, franchement, il devrait vous...
Il devrait...
Ah ouais,
des idées.
Il devrait vous suivre. La publicité Intermarché mettant en scène un loup végétarien qui se fait des amis est un succès.
Bah oui. Tout le monde fond pour ce loup qui devient végétarien pour avoir des amis, alors que tout le monde sait que les végétariens n'ont pas d'amis. Mathieu Béliard en sait quelque chose. Hein, Mathieu, merci de m'avoir invité à dîner, mais en fait, je mange pas de génocide de bœuf, en fait. Mais j'ai fait un tataki de bœuf en basse température au fer de jus oxydé et gel translucide de terroir bovin. Ça m'a pris 7 heures et j'ai dû le faire avec Thomas Pesquet, tellement c'est compliqué. Alors tout le monde sait que les loups ne sont pas végétariens en plus. Ils mangent les mergrants. Hein,
oui.
François Bayrou le disait, si les meutes de loups n'avaient pas été éradiquées en France, ils auraient pu bouffer nos grands-mères et il y aurait moins d'enculés de boomers et de retraites à payer. Donc réintroduisons les loups dans les centres-villes avec des vieux comme à Nice ou à Cannes.
Voilà, bien sûr.
Alors un jeune loup qui fait tout pour être inoffensif et populaire, bon bah Bardella va déposer une plainte pour plagiat et tout ça va relancer la mode des pubs de Noël.
Oui.
Une nuit d'orage, un miracle se produisit au pied du sapin. Une poupée devint vivante.
Oh mon Dieu, c'est merveilleux! Je suis en vie! Je sens l'odeur du sapin! Je peux marcher! Je suis devenue une vraie petite fille! C'est le miracle de Noël!
Je la sens pas bien cette blague.
Oh, ma poupée chine qui parle!
Oh
Théotime, il faut que je te laisse! Ma petite fille, t'as été sage cette année? Ce court-métrage féerique vous a été présenté par le BHV. Le BHV, 3 lettres pour le plus beau des Noëls. Allez, profitez bien de la magie de Noël!
C'était le meilleur d'Arnaud Demanche. Il est 8h21 et vous êtes bien sur RMC. Et dans un instant, ça se passe sur RMC et sur BFM TV. Le face-à-face, mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Nouvelle frappe américaine cette nuit sur l'Iran. Téhéran qui a répliqué en envoyant des drones sur un certain nombre de pays du Golfe, mais également sur la Jordanie, où la France compte d'ailleurs des bases militaires. Le conflit au Moyen-Orient est-il en train de repartir? J'interroge le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
La forêt de Fontainebleau en Île-de-France brûle, un incendie d'une ampleur exceptionnelle qui évolue de façon très inquiétante. Plus de 800 hectares parcourus depuis hier par les flammes, 300 pompiers mobilisés, 2 canadaires, un dash, 2 hélicoptères déployés et des renforts massifs de l'Est et du Sud sont attendus dans la journée. Et de nombreuses évacuations ces dernières heures, notamment 1000 habitants et touristes de la commune de Vaudoué en Seine-et-Marne. Incendie qui provoque des fortes perturbations depuis hier sur les rails. La SNCF annonce ce matin un retour à la normale sur la ligne TGV Sud-Est, mais on constate toujours ce matin d'importants retards en gare de Lyon, plus de 2 heures sur certains trains. Autre conséquence de cet incendie, l'autoroute A6 est fermée à la circulation entre Soisy-l'École et Nemours. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, lui est attendu ce matin sur place. Plus de 1500 fêtards toujours rassemblés dans le Morbihan depuis vendredi, une rave party illégale. Le préfet dénonce l'irresponsabilité des organisateurs en cette période de forte chaleur. Les Bleus ont posé leur valise à Dallas à 24 heures de leur demi-finale face à l'Espagne. Et Sinner, lui, sacré une nouvelle fois à Wimbledon, son deuxième titre d'affilée. Le numéro 1 mondial a battu Zverev en 4-7 hier. Jour de repos sur le Tour de France aujourd'hui. Van der Poel s'est imposé hier au sprint lors de la 9e étape du Tour de France. La météo, encore une journée très chaude et caniculaire. 37 départements en vigilance rouge, canicule 39 en orange, quelques averses, parfois orageuses, très isolées, risquent de concerner la moitié nord du pays. Le vent, lui, reste sensible partout, accentuant le risque de départ de feu. Côté température, il fait de 21 à 39 degrés, 21 à Cherbourg, 39 à Grenoble.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur RMC et BFM TV. Après une nuit à nouveau de frappe entre l'Iran et les États-Unis et aussi dans tous les pays du pourtour du Golfe, ces frappes, donc, bien sûr, et puis à la veille du 14 juillet, qui se veut une démonstration de force, justement, vis-à-vis du reste du monde. Jean-Noël Barrot, mon invité, dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. De très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord évidemment sur ce qu'il se joue en ce moment même entre l'Iran et les États-Unis, mais également les pays voisins. Est-ce que vous estimez que la guerre a repris ?
Personne n'a intérêt à ce qu'elle reprenne. Et toutes les parties, l'Iran, les États-Unis, doivent se tenir aux engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils ont signé un accord il y a à peu près un mois. Tous ont intérêt à éviter une nouvelle escalade qui ne ferait que des perdants en Iran et aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, puisqu'on se souvient de ce qui s'est produit avec la flambée des hydrocarbures qui avait un peu baissé grâce à l'arrêt des hostilités.
On va y revenir, mais lorsque vous dites personne n'a intérêt, on a l'impression que c'est un vœu pieux. Moi, je vous demande ce qui se passe sur le terrain. Comment vous le qualifiez quand on voit les frappes qui ont eu lieu la nuit dernière, quand on voit celles qui avaient déjà eu lieu les nuits précédentes? Est-ce que le constat, au-delà de l'espérance, c'est que le conflit, dans les faits, est de retour?
Le constat, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé et qui permet des choses très simples, c'est-à-dire l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et le démarrage d'une négociation pour encadrer strictement le programme nucléaire iranien. Il faut que toutes les parties reviennent au protocole de négociation qui a été fixé par cet accord, parce que, je le redis, elles n'ont aucun intérêt à l'escalade. Et c'est d'ailleurs pour cette raison.
Pourquoi? Mais parce que pourquoi frappe-t-elle?
Pourquoi frappe-t-elle? Eh bien parce que l'Iran, il y a quelques jours, a pris des frappes à l'encontre de navires qui circulaient dans le détroit d'Ormuz, frappe que nous avons condamnée, ce qui a déclenché un cycle de représailles qui doit maintenant s'arrêter pour que les négociations reprennent.
L'Iran qui affirme que le détroit d'Ormuz est fermé.
Et les États-Unis qui affirment qu'il est ouvert, mais de fait, étant donné le niveau de tension qui s'est réinstallé, il est très difficile d'envisager le retour de la circulation maritime. C'est inacceptable, puisque ce détroit, il est un bien commun de l'humanité. Il doit permettre, comme tous les détroits, à la circulation maritime de se faire sans entrave. Et donc, l'Iran doit désormais réouvrir, comme il s'y est engagé, ce détroit et assurer sa sécurité.
On se souvient de la signature, effectivement, de ce fameux accord ou pré-accord à Versailles. Sous vos yeux, vous étiez debout, juste derrière le président américain et le président français, au moment où cet accord a été signé. A-t-il encore du sens aujourd'hui?
Je crois qu'il prévoit une période de 60 jours, dans une première période de 30 jours. Nous sommes à peu près, dans quelques jours, nous atteindrons
cette période de
30 jours, avec la réouverture d'un détroit, son déminage, et ensuite les négociations sur le programme nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous avons accueilli à Versailles cette signature d'un accord que nous n'avons pas négocié, mais nous avons déployé des capacités militaires dans la région en marquant notre disposition à travailler de manière pacifique, strictement défensive, pour faciliter la restauration du trafic maritime, notamment par des actions de déminage. Donc nous avons tout notre possible.
On les mène en ce moment même.
Nous avons,
est actifs sur le déminage.
Vous voyez bien que la situation dans le détroit est très explosive, ce qui empêche évidemment la circulation non seulement des navires, mais aussi le déploiement de capacités qui viendraient porter assistance pour que le déminage puisse se faire, ou éventuellement des escortes de navires. Mais nous sommes prêts à le faire à condition que le calme revienne.
Nous sommes prêts à le faire, mais nous ne le faisons pas encore.
Nous sommes prêts à le faire à tout moment.
Jean-Noël Barrot, le porte-avions, le Charles de Gaulle, est rentré ce week-end à son port d'attache à Toulon. Est-ce qu'il a vocation à repartir ?
Il est rentré car sa mission était terminée, mais cependant qu'il rentrait, d'autres capacités étaient déployées dans la région pour en lien avec des partenaires, avec d'autres pays qui comme nous n'ont pas pris part à cette guerre, être en capacité d'apporter l'assistance nécessaire à la restauration du trafic maritime.
Donc il y a d'autres moyens français.
Oui, de déminage notamment.
Absolument. Qui sont prêts dès que le feu vert sera donné, par qui, par quoi, par la situation?
Dès que les conditions le permettent, c'est-à-dire l'assentiment des pays riverains du Détroit, à commencer par Oman, mais évidemment l'Iran.
Avec Oman, les relations sont bonnes?
Absolument, et vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, le sultan d'Oman était présent à Paris, ce qui nous a permis justement de finaliser ces préparatifs pour que, dès que les conditions le permettent, notre action, combinée avec celle d'autres pays, puisse faciliter la restauration.
D'autres pays ont été touchés la nuit dernière, notamment par des drones ou des missiles iraniens. Oman, vous le disiez, le Koweït, la Jordanie. Nous avons des bases françaises dans ces pays-là. Est-ce que ce matin, Jean-Noël Barrot, vous pouvez nous dire si les bases françaises sont en sécurité?
Elles le sont. Et nous avons condamné ces frappes indiscriminées de l'Iran, qui nous rappellent celles qu'elle a conduites au début de la guerre, qui nous ont conduit d'ailleurs à déployer des moyens considérables pour protéger à la fois nos ressortissants et nos bases, mais aussi nos partenaires avec lesquels nous sommes liés par des accords de sécurité. Souhaitons que nous ne revenions pas à cette situation de très grande tension dans cette région du monde, et en particulier dans le détroit d'Ormuz, parce que je le redis, ça ne fait que des perdants.
Vous le redoutez, vous vous dites, il est possible, au moment où l'on se parle, que les hostilités reprennent à un niveau comme on l'a connu au début?
Je me dis que c'est dans l'intérêt de personne, ni de l'Iran, ni des États-Unis, et je souhaite que chacun revienne
vous voulez croire,
au terme.
Vous
je,
voulez espérer.
Je souhaite que chacun revienne au terme de l'engagement qui a été pris.
Une question aussi sur les prix. Vous le disiez, ça a un impact, évidemment. Les prix à la pompe commençaient légèrement à baisser, même si on le sentait, il y avait une sorte de plancher, et ça y est, ils repartent à la hausse. Ce matin, le prix du baril atteint les 78 dollars le baril, les prix à la pompe, le prix du litre de gazole, c'est 1,99€, c'est quasiment les plus hauts qu'on avait connus. Est-ce que ça veut dire que effectivement les conséquences, y compris pour la France, là, pour les Français, elles se font déjà sentir?
Tant que nous resterons dépendants, notamment des hydrocarbures qui viennent de l'autre bout du monde, eh bien nous subirons les conséquences de guerres qui ne sont pas les nôtres ou de catastrophes en tout genre. Et c'est pourquoi, en même temps que le gouvernement gouvernement agit sous l'autorité du Premier ministre pour apporter un soutien aux secteurs qui sont en première ligne ou qui sont plus directement affectés. Il nous faut impérativement et rapidement nous défaire de ces servitudes, devenir plus indépendants, plus autonomes. C'est tout l'objet de ce plan d'électrification que nous avons accéléré ces mois derniers.
Avec deux questions encore sur l'Iran et puis je voudrais vous interroger évidemment sur l'Ukraine. Sur l'Iran, ce journal iranien, un quotidien ultra-conservateur qui s'appelle Amshari, qui fait une liste dans laquelle il y a Emmanuel Macron et la France, dont il considère que ce sont des personnalités qui devront payer pour la mort de Ali Khamenei. Le gouvernement français pour l'instant n'a pas réagi à ces mots de vengeance qui ont également été prononcés par le guide suprême, nous dit en tout cas ce journal. La vengeance est inévitable, elle sera inévitable. Cette vengeance est la volonté de notre nation. Elle doit être accomplie inévitablement avec donc cette liste dont Emmanuel Macron et la France.
Oui, je ne vois pas commenter les journaux les plus radicaux du régime iranien, mais il est évident que ce régime, dont je rappelle qu'il a opprimé depuis des décennies son peuple et l'a réprimé dans le sang il y a quelques semaines au début de l'année, n'a à notre égard aucune intention bienveillante. D'ailleurs, nous avons l'année dernière encore appliqué à ce régime des sanctions extrêmement lourdes. Nous l'avons inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et il va de soi qu'il n'y aura aucune levée de sanctions sur le régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncé à son programme nucléaire, renoncé à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncer à son programme de missiles balistiques dont certains pourraient un jour être en capacité de viser l'Europe, et tant qu'il n'aura pas rendu aux Iraniens la liberté de construire leur propre avenir.
Coalition internationale pour l'Ukraine, on va y venir, pour le Liban également ?
Nous y sommes prêts, à condition que les autorités libanaises le souhaitent.
Et ça n'est pas encore le cas, ils ne vous ont pas encore demandé d'agir ?
Un accord a été trouvé entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. C'est historique. Ça permet d'envisager un cessez-le-feu durable, le désarmement du Hezbollah, mais aussi la restauration du monopole des armes entre les mains des autorités libanaises, du gouvernement libanais. Le gouvernement libanais aura besoin de soutien sous la forme d'une coalition. Vous savez que nous avons 700 militaires français au sein du contingent des casques bleus de la FINUL. Donc déjà sur place. Mais nous aurons aussi à mobiliser la communauté internationale en organisant à Paris une conférence de soutien à ces forces armées libanaises qui en ont besoin.
Il y a aujourd'hui une coalition à Paris qui est la coalition des volontaires autour de la question de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky arrive d'ailleurs à Paris aujourd'hui. L'Ukraine tient en échec l'armée russe. Voilà ce que vous affirmez. La France doit-elle aider encore plus l'Ukraine?
Oui, et c'est tout l'objet de cette journée au cours de laquelle le président de la République accueillera près d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement participant à cette coalition qui continue de s'élargir puisque nous accueillons deux membres supplémentaires aujourd'hui, la Moldavie et la Macédoine du Nord, passant le nombre de pays impliqués de 35 à 37. Journée qui sera l'occasion d'avancer sur le travail de développement de capacités antiaériennes pour l'Ukraine. Nous accueillerons au Quai d'Orsay 8 pays et des industriels qui vont travailler justement à la manière d'accélérer la constitution de capacités antiballistiques antiaériennes pour l'Ukraine, mais qui sera aussi l'occasion de démontrer que cette coalition des volontaires, dont vous savez qu'elle a été constituée pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie grâce à des garanties de sécurité. De démontrer que ce travail est finalisé, d'annoncer que des exercices hors de l'Ukraine mais se tiendront dans les prochains mois pour que cette question-là, c'est-à-dire la dissuasion de toute nouvelle agression de l'Ukraine, ne soit en aucun cas un obstacle à la signature.
Jean-Noël Barrot, il y a déjà un paquet de sanctions européennes qui avait été prises contre la Russie. Il y aura d'ailleurs un nouveau paquet de sanctions qui sera adopté par l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire encore plus ?
Aujourd'hui, en particulier, nous allons dénoncer plus publiquement une vaste campagne cyber au but de sabotage, mais aussi d'espionnage conduite par la Russie dans une dizaine de pays européens. Nous allons en décrire quels sont les mécanismes et les auteurs. Oh ben vous savez, ce sont des opérations qui visent des ministères, qui visent des entreprises, qui visent des opérateurs et qui ont pour objectif soit de capter de l'information, soit de saboter le fonctionnement, par exemple d'infrastructures ferroviaires, comme ça a été le cas en Pologne. Ce que nous allons annoncer aujourd'hui, c'est que nous convoquerons l'ambassadeur de Russie en France dans les prochains jours, mais que nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le bureau de sécurité, le service de sécurité fédérale de la Russie.
Est-ce que la France a donc été directement visée ?
Elle a fait partie des pays visés, effectivement.
Des 10 pays visés ?
Absolument.
Est-ce que vous êtes inquiet là-dessus ? Est-ce que vous estimez qu'on a les moyens de répondre ?
De fait, on a la capacité de détecter ces attaques. On a considérablement renforcé nos défenses contre ces attaques cyber. Nous disposons, en matière de lutte contre cette agressivité ou ces agressions hybrides en provenance de la Russie, de l'un des dispositifs les plus aboutis en Europe et dans le monde, à la fois pour lutter contre les campagnes de désinformation qui pourraient parasiter, par exemple, les processus électoraux avec Viginum qui a protégé les élections municipales, mais aussi en matière de lutte anti-cyber avec notre agence nationale, l'ANSSI, dont les compétences sont reconnues dans le monde entier.
Vous avez parlé aussi de la question de l'ingérence. Un mot parce que demain, Volodymyr Zelensky sera invité aussi au défilé militaire. Un défilé XXL, une démonstration de force. La chroniqueuse de CNews et du journal du dimanche, Madame Xenia Fedorova, écrit « La question est simple, jusqu'où va-t-on entraîner la France dans cette guerre ? Si l'on veut que ce conflit devienne aussi le conflit de la France, alors qu'on le dise clairement aux Français. » Qu'est-ce que vous répondez à ces propos ?
Oh, j'ai répondu, et à plusieurs reprises, c'est tout simplement la propagande du Kremlin qui tente de faire passer l'Ukraine pour l'agresseur, alors que l'Ukraine est évidemment l'agressée, même si la résistance ukrainienne tient en échec les armées russes, et tente désespérément de faire passer la France et d'autres pays européens pour des va-t-en-guerre. Alors que tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, c'est la paix, et il suffirait que Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression coloniale et impérialiste pour que le continent retrouve.
Je vous sens sur ce point particulièrement choqué qu'une propagandiste, puisque vous dites que c'est de la propagande, puisse s'exprimer sur les ondes françaises.
Je suis étonné qu'elle y soit invitée. Évidemment, nous vivons dans un état de droit où chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et la question qui est posée, et l'ARCOM, le gendarme des médias, a été saisi sur cette question. C'est ce pourquoi une personnalité qui ne cache pas ses liens, en quelque sorte, avec la Russie de Vladimir Poutine, est invitée constamment dans les studios de radio ou sur les plateaux de télévision.
Jean-Noël Barrault et vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez, je vous recommande en particulier l'entretien exceptionnel que Volodymyr Zelensky a accordé à Didier François, qui sera diffusé ce soir sur BFM TV. Un mot aussi, monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur cette femme française portée disparue en Espagne dans le cadre de ces incendies. En savez-vous plus ?
Nous avons exprimé notre très vive émotion d'abord devant le bilan tragique, meurtrier de ces incendies en Espagne. Le travail d'identification du corps de cette Française disparue est en cours pour confirmer ou non son décès. Et nos services sur place, consulaires et diplomatiques, sont en lien à la fois avec ses proches, auxquels je dis tout mon soutien, et avec les autorités espagnoles.
Au moment où on se parle, il n'y a pas d'autres Français ou Françaises qui soient portés disparus ?
Non.
Jean-Noël Barrault, la Coupe du Monde, évidemment, ça nous réjouit ici, mais on est assez sidéré par les injures racistes à l'encontre de l'équipe de France. Il y a eu bien sûr la sénatrice paraguayenne, et puis il y a l'ancien premier ministre conservateur espagnol Mariano Rajoy, qui dit de l'équipe de France que c'est une équipe sans Français. Comment vous réagissez ?
Voilà des propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. C'est une équipe exceptionnelle qui montre le meilleur visage de la France, celui d'un pays qui est conquérant, qui est audacieux, auquel rien ni personne ne résiste. Et je me réjouis que cette équipe renvoie au monde une si belle image de notre pays. Et je me réjouis aussi de voir toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, quelle que soit le lieu où ils habitent, leur âge, soudés derrière cette équipe qui les fait rêver.
Et ça vous a surpris? C'est-à-dire que je trouve que on n'imaginait peut-être pas.
Je suis toujours surpris par la bêtise, la médiocrité et le racisme.
Je précise que le premier ministre actuel espagnol, Pedro Sanchez, a lui aussi condamné évidemment les propos de son prédécesseur. Il dit « France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde ».
Oui, le premier ministre a très bien répondu, mais je pense que celui qui apportera la meilleure des réponses, ou ceux qui apporteront la meilleure des réponses, ce seront les joueurs de l'équipe de France, quand ils emporteront haut la main cette demi-finale.
Merci beaucoup, monsieur le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Un mot encore quand même sur ce défilé XXL demain, fallait-il que la France fasse cette démonstration de force? Est-ce le signe que l'on se sent menacé?
Non, c'est pas le signe d'une démonstration de force, c'est un réveil stratégique de l'Europe qui prend en charge sa propre sécurité parce qu'elle a une intention.
De l'Europe ou de la France?
De l'Europe, sous l'impulsion de la France, parce qu'elle a une intention, c'est de préserver la paix sur le continent européen.
Merci beaucoup Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à mes questions sur RMC et BFM TV. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. 10 ans après les attentats de Nice, comment les victimes arrivent à se reconstruire? Nous avons pu les rencontrer, leurs témoignages, ils sont très forts et vous les entendrez. Puis toutes les infos Coupe du Monde avant la demi-finale France-Espagne.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h49 et vous êtes bien sur RMC, le mondial d'Antoine avec Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, vous allez nous donner toutes les dernières infos de la Coupe du Monde avant la demi-finale des Bleus demain. Mais d'abord, c'est l'heure du choix de la rédaction et c'est avec vous Inès Zegloul. Bonjour Inès.
Bonjour.
Les commémorations pour les 10 ans de l'attentat de Nice ont débuté hier, le 14 juillet 2016. Un terroriste fonçait à bord d'un camion sur la foule présente sur la promenade des Anglais. 86 morts, dont 15 enfants, des centaines de blessés, des milliers de témoins. Inès, vous avez rencontré ces victimes qui sont évidemment toujours traumatisées.
Et à quelques minutes à pied de la promenade des Anglais, Cécile me donne rendez-vous dans le cabinet de Brigitte, sa psy. C'est ici qu'elle a passé tant d'heures allongées sur ce sofa matelassé à tenter de disséquer les images, les sons qui lui restent de ce soir-là.
On allait tous voir le feu d'artifice de Nice.
Non,
moi j'étais avec mon mari et mes deux enfants qui étaient bébés. Et j'ai juste entendu des gens crier. Donc moi je me suis retournée, j'ai vu cet énorme camion. Et là, je me suis vue mourir en fait. Donc je me suis dit à moi-même, si moi je meurs, mes enfants eux vivront. J'ai pris la poussette double de mes enfants et la seule issue qui était possible à ce moment-là, c'était de les jeter par-dessus la barrière de la promenade des Anglais. Quitte à ce qu'ils se cassent une jambe, le camion était à 40 mètres et faisait du 80 km. Donc j'avais que 2 secondes pour réagir. Et à ce moment-là, je suis devenue quasiment aveugle. Consciemment, je n'ai vu aucune victime. Tout était noir autour.
Cécile, ses enfants, sa famille, ils s'en sortent finalement indemnes, du moins physiquement.
Et réfugiés chez eux, les heures passent, les jours passent, enfermés dans le noir. Et puis les années filent, elle se sépare de son mari et sombre parfois.
On dort pas, on a des cauchemars, je me suis mise à bégayer. Tout semble fonctionner normalement au quotidien, jusqu'à ce que tout d'un coup, un déclencheur fasse que on est complètement ramené à ça, comme si c'était hier. Un camion qui va trop vite dans la rue, je me fige. Mais non, en tout cas, je me vivais pas comme victime, je me vivais comme rescapée et très très chanceuse d'être entière et surtout pour mes enfants.
Comme disait Cécile, beaucoup de personnes n'ont pas compris à quel point le traumatisme était puissant. Brigitte Juillère-Bibou, je suis psychanalyste à Nice.
On est 10 ans plus tard. Est-ce que vous avez des patients qui vous en parlent encore?
On a eu des patients qui sont venus pour traiter le traumatisme, les médecins, des pompiers aussi. Mais j'ai eu aussi des personnes qui sont venues pour autre chose et qui relatent cet épisode. Ce sont des chocs tels qui ne se résorbent jamais totalement.
Qu'est-ce qui leur permet de tenir?
Eh bien, le rire de mes enfants, répond Cécile du tac au tac. Elle suit encore une thérapie, des séances d'hypnose. D'autres trouvent un peu de quiétude, de joie, attablés ensemble à une terrasse de café. Thierry, lui, a perdu sa fille de 12 ans dans l'attentat. Célia, elle, a perdu sa mère. Ils sont amis dans le drame et ils se rendent visite souvent.
C'est au 6e, hein, ouais, tu t'en souviens?
Bah, on se voit beaucoup parce qu'on boit des coups, il y en a plein de fois qu'on commande.
Ça... Entre nous, on sait, on en rit, on sait aussi ce qu'on subit en trame de fond, quoi. Donc,
Tu veux quoi, de l'eau? De l'eau.
Résilience, reconstruction, c'est des mots des autres gens, des autres. Nous, on se reconnaît pas, on les utilise pas. On...
C'est cette question-là de est-ce que vous vous reconstruisez, c'est la question qu'on vous pose le plus?
Sans arrêt, tout le temps.
Comment ça va?
Comment allez-vous?
Comment allez-vous? Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Ils sont fatigués après 10 ans de combat, 10 ans de procès, de désintérêt des institutions, disent-ils, d'injonction à la résilience. Et puis il y a aussi l'appréhension au moment de commémorer.
Ambivalente avec ce que j'en pense, un devoir de mémoire, mais on n'est pas dupes en fait. On voit bien les chaises des élus devant réservées, les chaises des victimes plus loin derrière. Je regarde ça avec un petit peu d'amertume.
Et puis difficile de faire mémoire lorsqu'on ne connaît pas toute la vérité. Les victimes attendent toujours des réponses sur la sécurisation de ce 14 juillet 2016 à Nice. C'était il y a 10 ans.
Merci Inès Zegloul, reporter RMC. Très fort évidemment, et les commémorations qui auront lieu demain soir à Nice. On va parler Coupe du Monde, c'est le début des demi-finales et c'est demain.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, journaliste RMC Sport, vous êtes toujours avec nous. On commence avec ces dernières infos qui concernent l'équipe de France.
Et oui, Apolline, les Bleus sont arrivés à Dallas cette nuit et pris leur quartier au Texas avant la demi-finale tant attendue demain soir face à l'Espagne. Côté compo, dernière nouvelle, Aurélien Tchouaméni, absent lors des deux derniers matchs, devrait bien retrouver sa place au milieu dans le 11 de Deschamps, alors que Désiré Doué tient la corde pour occuper le flanc gauche de l'attaque. Et des Bleus méchants, comme ils le clament. Alors pourquoi ce terme? Explication du défenseur Ibrahima Konaté.
On a la capacité à switcher, par exemple, entre la veille ou un entraînement, ça va être taquin, tout le monde va rigoler, tout en étant extrêmement sérieux. Lorsqu'on arrive avant le match ou même sur le chemin du match dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état d'esprit de gagne.
Premier qualifié dans le dernier carré depuis jeudi soir et leur succès 2-0 contre le Maroc, nos Français se sont bien occupés avant de rejoindre le Texas dans leur camp de base, à l'abri des regards indiscrets. Jean-Philippe Mateta prend soin de son genou, quand d'autres comme Luc Adigne et Maxence Lacroix tentent de deviner le programme de l'entraînement du jour.
Aujourd'hui, je vois bien deux petits taureaux avec tout le monde, et après des allongés pour ceux qui ont joué et du jeu pour ceux qui ont
ça serait pas mal.
Bon, je pense que c'est faisable.
Je vais faire un peu de cardio. On fait partie des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes pour être prêts quand on fait appel à nous.
Et Antoine, depuis le début du mondial, on a droit à ce type de séquence assez sympa au cœur de la vie des Bleus. Ça cartonne sur les réseaux sociaux.
Et oui, l'extrait que vous venez d'entendre provient de vidéos tournées par Guillaume Bigot, qui suit au plus près l'équipe de France depuis 2004. Ainsi, on peut découvrir le quotidien des Bleus, entraînement, déplacement, moment de partage. Le Parisien, aujourd'hui en France d'hier, nous apprend que ces vidéos cumulent plusieurs dizaines de millions de vues sur les plateformes, bien aidées, il faut le dire, par une génération de joueurs souriants, intelligents et surtout qui gagnent, dixit Raphaël Raymond, le chef de presse de la sélection.
Confiance, sérénité, tous les voyants semblent donc au vert pour toute l'équipe de Kylian Mbappé.
Tout à fait. Alors non seulement les Français bénéficient d'un jour de récupération de plus que les Espagnols, ils sont aussi les favoris désignés pour soulever le trophée. C'est le très sérieux statisticien Opta qui le dit. La France a plus de 34% de chances d'être sacrée, quand l'Espagne se situe à près de 23%, l'Angleterre à 22% et l'Argentine à 20,5%.
France-Espagne, c'est donc demain soir, ce week-end. De l'autre côté des Pyrénées, un homme politique a lancé les hostilités.
Après les propos racistes d'une sénatrice paraguayenne, ceux d'un ancien Premier ministre espagnol, dans un journal ibérique, Mariano Rajoy s'est félicité de la qualification de son pays avant d'évoquer l'équipe de France en ces termes. Son effectif est de très haut niveau, et ce, sans français. L'ex-chef de file de la droite conservatrice vise donc les origines étrangères de nos Bleus. L'ambassade de France en Espagne s'est empressée de réagir, affirmant que seuls 3 des 26 joueurs sélectionnés ne sont pas nés en France, tandis que le président de la fédération, Philippe Diallo, a qualifié des propos au relent de racisme intolérable.
Demain, nous serons le 14 juillet, c'est une journée évidemment spéciale.
À plus d'un titre. La fête nationale, ses festivités, ses feux d'artifice et son défilé militaire. Une parade à laquelle Emmanuel Macron assistera évidemment. Si le président de la République se rendra à New York en cas de finale, il ne sera en principe pas à Dallas demain, contrairement aux plus de 3000 supporters tricolores. Bon, à moins que Gianni Infantino lui prête ses super pouvoirs. Et puis, autre actualité qui vient se télescoper avec le match demain, le triste anniversaire des 10 ans de l'attentat de Nice qui a fait 86 victimes sur la promenade des Anglais. Éric Ciotti, le maire de la ville, a demandé à la FIFA d'organiser une minute de silence avant la rencontre. Une requête pour l'heure sans réponse.
Et on en parlait évidemment à l'instant aussi avec Inès Zegloug. Antoine, après plus d'un mois de compétition, cette Coupe du Monde, elle nous offre la crème de la crème au stade des demi-finales.
France-Espagne et Angleterre-Argentine, c'est un carré d'as.
Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir
vos amis, les quatre fantastiques.
Et pour la première fois, le top 4 du classement FIFA compose le dernier carré du mondial. Dans un ordre différent, certes, ces nations étaient dans le top 4 au moment du tirage au sort fin 2025. Elles le sont encore aujourd'hui, à ceci près que les Bleus dominent désormais ce classement. Et puis, ces quatre sélections ont aussi la particularité d'avoir toutes déjà remporté au moins une fois la Coupe du Monde.
Merci Antoine Salva, journaliste RMC Sport, France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. C'est en direct et en intégralité sur RMC, bien sûr. Match à 21h, l'avant-match dès 18h et ce sera demain. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Olivier ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les GG dans quelques minutes maintenant pour débattre de l'actualité avec autour de la table aujourd'hui le professeur de philo Jean-Loup Bonamy, notre avocat Charles Consigny, la prof de français Fatima Edbounou. On va revenir bien sûr sur ces incendies aux portes de Paris. Effrayant, est-ce que vous avez été évacué ? Appelez-nous au 3216 pour témoigner. L'actualité, le débat, les grandes gueules arrivent.